Donc, la semaine dernière, nous avons vu Joseph sortir de prison parce que le chef des échansons s'était souvenu que Joseph avait pu interpréter un songe. Pharaon a eu un songe que personne ne pouvait interpréter, pourtant il était assez simple. Mais Dieu ne voulait pas que les magiciens puissent le faire, parce que c'est lui qui avait quelque chose à dire. Et il voulait qu'on sache que c'était lui. Et bien sûr, il pouvait compter sur Joseph pour dire, c'est Dieu qui donnera l'explication. Hein. Donc on a vu ça, tout ça dans chapitre 41. Regardez dans chapitre 41, verset 46. Vous voyez, quel âge avait Joseph quand il comparait devant Pharaon ? Il a 30 ans. C'est un bel âge, hein ? Et vous savez quel âge il avait quand il a quitté ses frères ? 17, oui. Donc vous faites la différence, ça fait combien ? Francisca, elle est forte en maths, là. Tu veux mes doigts? Donc, 13 ans. Imaginez, 13 ans, entre le temps où il est vendu esclave et le temps où Dieu le sort de prison. Pour quelqu'un qui a toujours craint Dieu et a toujours essayé de plaire à Dieu, vous dites, bon, ça fait quand même, hein, c'est 13 ans de prison, hein, il faut faire quelque chose de grave, hein, pour faire 13 ans de... Bon, c'est d'esclavage, on sait qu'il a fait au moins 2 ans de prison, on ne sait pas combien de temps il était en prison quand le panetier et les chansons ont eu leur rêve, mais c'est 2 ans après qu'il est en fait sorti. 13 ans, et puis en plus, remarquez que c'est entre 17 ans et 30 ans. Quand on regarde la vie de quelqu'un, on dit ça, c'est la fleur. Hein, c'est là où il a toute sa force, c'est là où il a toutes ses capacités, c'est là où il fait ce qu'il a envie de faire, c'est là où on a tous les plaisirs, c'est là, on dit à 30 ans, il faut commencer à être sérieux. Bon, il y en a qui n'ont pas compris encore, mais voilà. Mais normalement, c'est... Et qu'est-ce qui arrive? C'est que comment est-ce qu'il passe les 13 meilleures années de sa vie? Eh bien, esclave. Ou en prison. C'est pareil. Et dit, mais ça, c'est ça la vie qu'on mène quand on fait confiance à Dieu et quand on vit pour lui et on veut vivre pour lui. Ben, vous avez remarqué que j'ai appelé ça, j'ai dit, la durée de la période de formation, ou en fait de transformation. Parce que vous vous rappelez que tout au début, quand on parlait de Joseph, c'était un peu quand même le petit gamin gâté là, hein, de la maison, le fils à papa. Et c'était le genre, on peut s'imaginer, hein, c'était celui qui se promenait devant ses frères. Gna, 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 gna. Et puis en plus, ça, surtout quand il a eu ses rêves, alors là, il n'a pas perdu de temps pour leur dire. Et là, ils n'ont pas eu besoin d'un interprète pour comprendre le sens des rêves. Vous allez vous prosterner devant moi, le petit. Et puis après, le père, il n'a pas arrangé les choses, il lui a donné un beau manteau. Et tout ça est bon. Dans cet état-là, il n'était pas très utile à Dieu. Bon, son père l'avait enseigné la crainte de Dieu, mais Dieu prend le temps de nous préparer, non pas pour qu'on soit passable ou qu'on soit médiocre dans notre vie ou qu'on soit même correct, mais Dieu l'a préparé pour une tâche particulière. Hein, c'est ça qui est important et c'est comme ça qu'on doit percevoir les choses. Nous regardons les choses dans le sens que, mais écoutez, Seigneur, je ne suis pas si mauvais chrétien que ça, hein, quand même, après tout, hein, il y a pire que moi. Et on essaie de passer comme ça, le Seigneur dit non, mais moi ça n'a rien à faire, ne te compare pas à un autre, ne te compare pas à un frère, à une sœur, ou quelqu'un de ton âge, je n'ai rien du tout, parce que il n'y a pas à se comparer. Celui qui, en fait, même Paul dit, si nous nous comparons entre nous, nous ne sommes pas sages. Parce que ce que Dieu a prévu pour chacun de nous est différent. Et le parcours est différent. C'est la même argile sur le tour du potier. Certains, ça devient un pot pour de l'eau, l'autre, ça devient un pot pour des fleurs, l'autre, ça devient une décoration, et pour l'autre, c'est une marmite de cuisine, et pour l'autre, c'est... Mais c'est la même argile, mais ils forment pour une tâche différente. Et donc, dans un sens, même si au premier abord, ça nous paraît, on dit, mais ça, c'est négatif, tout, c'est du temps perdu. Les meilleures années de sa vie, et puis ils sont perdus comme ça à rien faire. Rien d'utile, il ne peut même pas se faire plaisir. Mais Dieu voit les choses autrement. Et maintenant que l'histoire est passée, qu'on a connu l'histoire de Joseph, maintenant, il y a des gens qui donnent leur nom à leurs enfants et disent « je vais l'appeler Joseph ». Hein, c'est un nom qui quand même a une bonne réputation. Et surtout dans la Bible. Mais au début, ce n'était pas tout à fait ça. Donc, une première chose... Je fais remarquer ce que nous, parfois, on a notre manière, parce que nous, on est pressé par le temps. Je dis, Seigneur, j'ai déjà 30 ans et je n'ai rien fait encore dans ma vie. C'est autre chose. Il faut voir les choses telles que Dieu. Hein, et Dieu nous... Bon, si Joseph a eu des ennuis avec ses frères, peut-être c'était un peu sa faute. C'est peut-être un peu la faute de son père, mais quand même, il est tenu responsable. Mais Dieu va faire une œuvre dans sa vie. Et comme je l'ai proposé un autre soir, c'est que certainement c'est ce moment-là où les frères l'ont jeté dans la citerne et qu'il a crié à Dieu toute la nuit pour être délivré de là. C'est certainement là où il y a eu un changement dans son cœur, où il s'est tourné vers Dieu. Parce qu'après cela, on le voit, peu importe les circonstances, soit chez Potiphar, soit ayant affaire avec la femme de Potiphar, soit dans la prison, il sert Dieu. Et Dieu est avec lui. Donc quelque part... Il y a eu un moment critique, et c'est important pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir ce moment critique, et puis c'est seulement à partir de ce moment critique dans notre vie que Dieu peut commencer à nous former, et il nous prépare pour une tâche particulière. Mais pendant ces 13 ans, les frères doivent vivre avec leur culpabilité, parce que eux, pendant 13 ans, il y a un secret dans leur cœur. On a failli tuer notre frère, et puis finalement on l'a vendu, et puis on ne sait pas où il est parti, ce qu'il est devenu, il est peut-être mort maintenant, et tout ça. Et pendant 13 ans, il dit, ah, notre bon frère, et puis on peut rien faire, on ne peut pas rattraper, tout ça. Et pendant 13 ans, ils sont là. Hein. Et on va voir dans ce chapitre, on va voir comment ça les travaille quand même, hein, même... Donc, Jacob, lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Quand ils sont revenus au chapitre 37, quand ils sont revenus, ils lui ont apporté le manteau de plusieurs couleurs, ils l'ont montré au père, et puis comme il y avait des taches de sang dessus, tout ça, le père s'est fait une histoire, hein, pour expliquer ce qui était passé. Et les enfants ne les ont pas corrigés, ils l'ont laissé penser comme ça. Et lui ne sait pas vraiment ce qui s'est passé de son frère, son fils. Et eux, eh bien, et vous imaginez dans une vie de famille. Dans une vie de famille, tout d'un coup, il y a quelqu'un de la maison qui manque. Ben, ça ne veut pas dire qu'on n'en parle plus. Même s'il meurt, on en parle. Et chaque fois que son nom est soulevé, tous ces garçons, qui sont des hommes maintenant, ils doivent voir comment ils vont faire pour faire passer la chose. Imaginez, pendant 13 ans, et chaque fois que le papa soulève la chose, tout d'un coup, les gens baissent la tête, il y en a un qui dit, bon, moi, je dois sortir, et chaque fois, c'est quelque chose. Et vous savez comment ça se passe, hein, les hommes, ils n'ont pas changé. Et le père qui, chaque fois, il dit, il ne sait pas comment interpréter leur comportement, et lui, il reste avec sa pensée, et eux, ils savent ce qui s'est passé, et je pose la question, combien de fois est-ce qu'ils ont dû mentir en 13 ans? Soit dire quelque chose de pas vrai, soit dire quelque chose qui fait croire quelque chose de pas vrai, mais constamment en train de tromper. Hein. Et vous savez, ça ne s'arrête pas. Et ce que le problème, c'est le péché caché. que nous croyons avoir caché. Hein? Peut-être que les gens autour de moi ne savent pas. C'est un peu, c'était le cas des frères, là. Papa ne le sait pas. Benjamin, peut-être, ne le sait pas. Et tout ça. Mais, et donc, c'est un secret qu'on garde. Mais ce n'est pas parce que personne ne le sait que c'est facile à vivre. Hein? Parfois, on se dit, mais personne n'est au courant. Oui, mais moi, je suis au courant. Et si je l'ai fait avec quelqu'un, l'autre personne est au courant. Et bien sûr, Dieu. Donc, c'est et dans un sens, on voit que la mémoire de ces hommes a refusé d'oublier. Regardons dans Genèse 42. Maintenant, je vais lire un passage. Donc, je ne vais pas lire tout le chapitre. Mais bon, Jacob, au verset 1, Jacob apprend qu'il y a du blé. Hein, la famine a commencé. Les 7 années d'abondance sont passées. La famine a commencé. On commence à vraiment à ressentir la famine. Et Jacob apprend qu'en Égypte, il y a de quoi manger. Donc il dit, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres, hein? Vous pouvez imaginer un père qui... Les garçons qui sont là, qu'est-ce que vous faites là, vous regardez? En route, hein, c'est... Que faites-vous là à vous regarder? Et ils descendent en Égypte. Et puis là, bien sûr, ils ont affaire avec Joseph. Bon, ils ne savent pas qui est Joseph, mais pour eux, c'est un Égyptien puissant. C'est avec lui qu'il faudra traiter. Lui, au verset 7. Bon, déjà, je lis verset 6. Joseph commandait dans le pays, et c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Oups, ça vous fait penser à quoi? Un songe, hein, déjà. Bon, eux, ils ne savent pas, mais Joseph, parce qu'il nous dit tout de suite après, Joseph vit ses frères et les reconnut. Parce qu'eux, ils avaient toujours les mêmes tenues. Hein. On voyait que c'était des Hébreux déjà. Et puis, ils avaient l'accent du pays. Et puis, on voyait que c'était des bergers. Et tout ça, c'était facile, tandis que lui, vous avez vu assez de trucs égyptiens, certainement la tête rasée, la tenue qui correspond, est tout à fait égyptien, et donc il n'y a pas moyen de deviner. Mais ça fait 13 ans, eux, on voit la même tête, mais eux ne reconnaissent pas lui. Et il les reconnaît, et il fait semblant d'être un étranger pour eux, et il leur parla durement. Je vais revenir là-dessus un peu après. Et alors, verset 9, Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions. Et bien tout de suite, l'accusation. La pire des accusations, on vient dans un pays étranger et on est accusé d'être espion. C'est le pire truc. Comment s'en sortir? Et la preuve d'innocence, c'est eux qui doivent prouver. Hein, lui, il fait l'accusation, c'est facile, et c'est à eux d'essayer de le prouver qu'ils ne sont pas. Hein, c'est, tout le fardeau est sur eux, il les fait souffrir avec ça. Et j'arrive au verset verset... je vais vous raconter un peu ce qui arrive. Donc il leur dit, écoutez, moi je suis sûr que vous êtes des menteurs, des espions et tout ça. Il dit, alors, est-ce que vous avez un père? Oui, on a un père. Et vous avez des frères? Oui, on a un petit frère à la maison. Bon, lui, il est en train de prendre des nouvelles. Et il sait tout ça. Et donc après, il commence à leur dire, non, vous êtes des espions, je n'ai pas confiance. Il dit, la seule manière que je vais savoir que vous dites vrai, c'est que je vais en lâcher un, il partira, il ira chercher le petit frère. Et si vous me ramenez le petit frère, je saurai que vous n'êtes pas des espions. Bon, après, il va un peu changer ça. Mais il les met tous en prison pendant 3 jours, hein, au verset 17. Il les met ensemble 3 jours en prison. Bon, ils n'ont jamais eu autant de temps pour réfléchir. Et ils sont entre eux. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. » Je me demande ce qu'eux, ils ont compris par ça. Si, ouais, craint Dieu, un Égyptien qui craint Dieu. Mais Joseph ne renie pas, mais bon, je pense que eux, vous savez, il est tellement égyptien et tout ça qu'ils n'ont pas saisi la différence parce qu'eux, ils ne captent pas. Il dit, si vous êtes sincère, verset 19, si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, Et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Donc lui, il veut voir son frère, c'est tout ce qu'il veut faire. Il veut voir son petit frère, ce qui est normal, hein, il n'y a pas rien de plus naturel. Et puis il dit, moi, écoutez, je vais être gentil avec vous, j'en garde un seulement, et je vous laisse partir les 9 autres. Et puis avec la nourriture pour votre famille, tout ça, bien sûr, il veut s'occuper de sa famille, il sait que ça ne va pas là-bas. Hein, il pense à eux, mais il fait semblant d'être dur, mais en fait, il cherche leur bien. Et il dit, vous ramenez le petit frère. Sinon, j'en ai un ici. Oui, il va voir, hein, parce que déjà, eux, ils ont sacrifié un frère, et il va voir s'il y a eu un changement de cœur, s'ils sont prêts à sacrifier un deuxième frère. Bien sûr, Joseph, il n'est pas Dieu, hein, il ne peut pas savoir dans quel état est leur cœur. Lui, il se souvient de comment était leur cœur il y a 13 ans. Et il n'a pas un bon souvenir. Mais regardez, verset 21, ses frères, comment ils parlent entre eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous n'avons pas vu l'angoisse de son âme. Et quand il nous demandait grâce, nous ne l'avions point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point ce crime envers cet enfant. » Mais vous n'avez point écouté. Voici son sang nous est redemandé. Là, tout d'un coup, eux, ils commencent à du remords. Ça revient. C'est vieux de 13 ans. Mais ça revient comme si c'était hier. Parce que la conscience, elle, se souvient. La mémoire est là. Et même les frères commencent à s'accuser entre eux. Hein. Il dit, ouais, mais c'est toi, tu n'as pas écouté, moi je vous ai dit, et puis vous n'avez pas voulu m'écouter. Oh, regarde maintenant le pétrin dans lequel on se trouve. Hein, langage de frère, hein, c'est pas. Vous connaissez les familles. Et ce qui est étonnant, c'est verset 23, il ne savait pas que Joseph comprenait. Hein, lui comprend tout. Hein, c'est, il n'a pas oublié l'hébreu au bout de 13 ans. Mais vous savez, ce qu'il y a, c'est. À peine qu'il rencontre un problème dans la vie, il rencontre ça, tout d'un coup il dit, ça c'est parce que à cause de notre frère. Il n'y a rien qui... Mais vous savez comment c'est la conscience. Hein, quand on est en train de porter quelque chose, c'est comme le voleur, il entend une sirène, il est sûr que la police vient vers lui. Alors qu'il y a des sirènes qui passent tout le temps. Hein. Mais la conscience, ça fait tout d'un coup, on se sent accusé. Hein, C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que un péché caché, c'est désagréable. Hein? On va en parler plus, mais c'est vraiment, ça ne vaut pas la peine d'essayer de conserver un péché caché, parce que c'est une souffrance. Et eux souffrent depuis 13 ans, et ils vont bientôt être soulagés, mais quand même. Alors, voilà, ils arrivent au point où ils se rejettent la faute l'un sur l'autre, parce qu'on commence à accuser, hein, on se sent mal à l'aise, et on commence à chercher un coupable. Joseph, lui, il se trouve, et je reviens à ce verset 7, alors, Joseph vit ses frères et les reconnut. Mettez-vous à sa place. Il y avait une époque où vous étiez le petit. Et on vous a bousculé, on a maltraité, on a vendu, et ça fait 13 ans que je souffre. Maintenant, les choses ont changé. Joseph est celui qui est en position de force, et eux sont en position de faiblesse. Quelle serait la chose naturelle à faire ? Même si c'était la chair, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est ça. Vengeance, on rend la monnaie. Hein? Ça, ce serait la première chose qui vient à l'esprit. Heureusement pour eux, Joseph était, il croyait en Dieu. Mais, heureusement pour eux. Mais là, Joseph, il a une première option, c'est la vengeance. C'est-à-dire, là, il suffit qu'ils disent un mot, et eux, ils sont plus de ce monde. Ou il aurait pu les mettre en prison, et dire, bon, je vais les faire payer 13 ans aussi, voir ce que ça donne. je vais faire goûter l'esclavage, ils vont être esclaves pendant 13 ans. Il aurait pu penser à toutes sortes de choses, c'est des trucs qui peuvent passer dans la tête. Hein. Et Joseph est là, il les voit arriver, il dit, ah ouais, ces têtes-là, je les connais. Et maintenant, entre le temps où eux, ils rentrent par la grande porte, et lui, il les voit arriver au comptoir, il doit décider comment il va faire. C'est dans ces situations-là, quelque part, on n'a pas le temps de transformer son cœur et de purifier son cœur et de tout ça. L'enfant de Dieu doit constamment marcher avec son cœur en bon état. Comme ça, la réaction est normale et spirituelle quand la situation arrive. Si Joseph était encore avec le cœur amer, s'il était encore en train de broyer du noir à cause de ses frères, eh bien, rien que de les voir, il aurait des projets clairs. Ça n'aurait pas pris longtemps, il ne manquait pas d'idées. Et il avait les moyens. Mais parce que son cœur, il l'avait entretenu dans la confiance de Dieu, le respect de Dieu, et tout cela, eh bien, il n'a pas eu cette réaction. Il y avait une autre option. Ça ne veut pas dire que quand on est chrétien, on est naïf et on se laisse marcher dessus. C'est pas ça. Il y a des gens qui disent ouais, bah, oui, Jésus a dit si on te donne une claque, tends l'autre joue et puis prends en caisse. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais si jamais vous faites ça, en général, la deuxième ne vient pas. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Si on se protège, ils savent taper. Mais si on dit vas-y, tape. Tiens, tu m'as tapé là, vas-y. Après, il dit mais qu'est-ce qui ne te va pas, toi ? Qu'est-ce qui me prépare ? Non, en général, on ne reçoit pas la deuxième, n'importe comment, mais. Voilà. Mais là, la question, ce n'est pas de se laisser marcher dessus, ce n'est pas de se laisser réagir à ce qui est naturel, mais il dit je vais sonder leur cœur, je vais voir dans quel état ils sont. Ça fait quand même 13 ans, peut-être qu'ils ont fait du chemin, de la route depuis. Et il faudrait que je sonde leur cœur. Et je crois que, quelque part, ça, c'est la sagesse d'une situation. Vous savez, beaucoup, et vous êtes tous, avez assez d'expérience dans la vie, pour savoir que, souvent, quand on a réagi tout de suite, on a mal réagi. Et beaucoup des erreurs qu'on a fait ou de mauvais jugements, c'est fait où on a réagi trop vite. On n'a pas pris le temps de réfléchir et de peser ses mots, de peser sa réaction, de faire quelque chose. Là, eh bien, Joseph, il les voit venir, et puis il va les sonder. Donc lui, il va employer la méthode de l'accusation, pour voir comment ils réagissent, mais finalement, il n'a fait aucun mal. Hein. Il aurait pu dire, ouais, vous êtes, moi, je vais vous battre comme ça, rien que pour voir si vous êtes... parce que je suis sûr. Non, il ne les fait pas battre, rien du tout. Finalement, il les traite gentiment, mais il veut quand même un peu... Et puis, je crois qu'il avait l'oreille à la porte de la cellule aussi pour écouter, voir ce qu'il racontait. Il veut sonder les cœurs. Et je crois que c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. C'est que quand nous nous trouvons dans une situation comme ça, pris au dépourvu peut-être, c'est de se dire, non, attends, sonde la situation. Essaye de comprendre d'abord d'où ça vient, pourquoi ça vient, qu'est-ce qui est... Peut-être qu'il y a une incompréhension, peut-être qu'il y a... Peut-être la personne passe un moment difficile et de prendre le temps d'essayer de comprendre la situation. Et là, ils sont de leur cœur. Première chose, il les met tous en prison et puis il les laisse réfléchir un moment. Bon, eux, ils l'ont mis une nuit dans la citerne, lui, il les met en prison. Et ils sont là ensemble. Et ils ont besoin de ce temps ensemble. Papa n'est pas là pour entendre, et personne d'autre, il n'y a que eux. Les 10 qui sont courants sont ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et c'est là, ouais, c'est ça qu'on a lu, quand ils commencent à se dire, ouais, mais bon, tu te souviens, quand tu n'as pas écouté, nous, on n'a pas fait attention, tu es dur avec lui. Alors, tous réfléchissent. Ils commencent à poser des questions, ils se dirent l'un à l'autre, Et puis, tous partagent la culpabilité. Oui, depuis 13 ans. Tous se taisent depuis 13 ans. Mais 13 ans, ça n'a pas suffi pour oublier. On oublie beaucoup de choses, mais ça, une chose qui n'est pas réglée, ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas par la victime, mais même celui qui croit avoir commis, il se souvient. Même s'il n'en parle pas, même s'il ne dit rien à personne, il dit personne n'est au courant, mais ce n'est pas pour ça que ça ne travaille pas. Et ce n'est pas la peine d'entretenir, un peu, c'est dans le sens où je vais aller ce soir, ce n'est pas la peine d'entretenir des péchés cachés. Il faut les confesser, les régler avec ceux qui sont au courant, en tous les cas. On n'a pas besoin de dire à tout le monde, mais il faut en parler avec ceux qui ont été offensés. Obtenir le pardon, parce que c'est là où on trouve du soulagement. Cacher le péché. Hein, ce problème de cacher le péché, on l'a tous fait. Hein, on a tous été gamins. Hein, les gamins, ils essayaient de le faire. Papa, il n'a pas vu. Maman, combien de fois on a essayé de m'entraîner dans quelque chose. Il dit, mais ton père, il ne saura pas, on ne le dira pas. Hein. Tiens, viens avec nous. Ah, mon père, il n'est pas d'accord. Ah, mais il ne dira pas, on ne dira rien. Et cacher, c'est toujours une tentation. Hein. Et puis après, quand on est grand, ben, on essaie de cacher de la police, on cache des impôts, on cache de Dieu. C'est très naturel, hein. C'est chez l'être humain. Mais vous savez ce qui est arrivé avec David, quand il a commis le péché avec l'adultère avec Bathsheba. Comment est-ce qu'il a essayé de cacher? Vous souvenez? Déjà, oui, bon, déjà, il a essayé de faire venir le mari pour qu'il passe le week-end avec sa femme. Comme ça, si elle tombe enceinte, on comprendra que c'est... Déjà, il essaye de cacher pour qu'on... Ensuite, comme le mari, lui, dit « Non, non, mais moi, les collègues, ils sont dans la nature. Moi, je ne rentre pas à la maison dormir dans un lit. Moi, je reste dehors. » Ah, il a essayé de le saouler, il a essayé de faire tout cela. Pas moyen de le faire rentrer. Le gars, il est loyal à ses collègues. Alors, ben, il se débrouille pour que le gars, il se fasse tuer. Le coup est monté pour qu'il se fasse tuer. Et bon, maintenant, c'est réglé. On lui envoie Joab, lui renvoie le message, lui dit écoute, Uri est mort. Alors là, David, tout de suite, eh ben, il va chercher Bathsheba, il l'amène à la maison, tout est bon, son mari est mort, donc je peux la prendre. Ça a l'air d'être bon pour tout le monde, sauf pour Dieu. Mais il a réussi à cacher. Finalement, ça a roulé pendant un certain temps, et personne n'a su, personne n'a compris. Mais prenez la référence, vous lisez, hein, mais je ne vais pas lire l'histoire. Mais Nathan est venu voir David. Il dit, David, écoute, je vais te raconter une petite histoire. Parce que s'il avait été directement David, il aurait certainement réagi en disant, mais non, c'est pas vrai. Puisque personne n'est au courant. C'est facile, quand personne n'est au courant, c'est facile de dire, mais c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire le contraire. Hein, donc, quand une chose est bien cachée, eh bien... on va dire c'est pas vrai, même si on sait que c'est vrai. Donc Nathan, il raconte une petite histoire, il dit voilà, il y a un gars qui a beaucoup de brebis, mais il a eu un invité qui n'était pas prévu, et comme il voulait pas tuer une de ses brebis à lui, donc il a pris une brebis du pauvre qui habite à côté de chez lui, sa seule brebis, il l'a prise et puis il l'a préparée pour l'offrir à son invité. David, il a réagi, il a fait un bond, il a dit, celui-là, il mérite la mort. Comment? Lui, il en a plein. Et il n'en prend pas un, et puis il prend le seul de... Et quand il dit, il mérite la mort, Nathan lui dit, mais c'est toi. Toi, tu as un palais rempli d'épouses, et puis le pauvre petit Uri, qui n'a qu'une seule femme qu'il aime, et tu l'as prise. Et là, David n'avait rien à dire. Mais vous savez, vous lisez le récit, en fait, c'était un soulagement pour David d'être découvert. Parce que jusque-là, il avait tellement bien couvert la chose qu'il ne pouvait pas être découvert. Et comme c'était toujours caché, donc, il n'aurait jamais pu confesser. Il aurait vécu, et quand vous lisez le psaume 51, ou vous lisez le psaume 32, Il dit, mais je souffrais dans mon être. Je ne dormais pas la nuit, je me tournais, j'avais mal jusque dans les os, je souffrais. Mais après, le matin, il sort et puis il fait le sourire à tout le monde et tout va bien. Mais en réalité, il souffrait terriblement. Et Dieu, quand il a envoyé Nathan pour faire... lancer l'abcès, là, ouvrir l'abcès, c'était un soulagement. Parce qu'il a pu, il était obligé de confesser, et quand il a confessé, il a pu trouver du soulagement. Hein, un péché non confessé, pas de soulagement, jamais. La mémoire ne joue pas avec nous. Et donc, il y a un autre cas, vous vous souvenez de Akan. Akan, qui lui aussi, il avait fait péché caché, il ne fallait pas prendre quoi que ce soit dans Jéricho. Et lui, il a pris des objets, il les a cachés sous sa tente, personne ne l'a vu. Quand on a cherché dans Israël, et on a dit, mais qui est-ce qui a volé? Dieu dit qu'il y a quelqu'un qui a volé. Qui a volé? Personne. Disait, de quelle famille? Pas, il n'y avait que Dieu qui savait. C'était tellement bien fait, je ne sais pas comment il a réussi à aller là et prendre quand même autant que ça. Et l'amener jusqu'à sa tente, creuser la tente, et cacher ça sans que personne ne voit. Mais il s'est bien débrouillé. Alors lui, même quand Josué arrête tout le monde et dit, on s'arrête, il y a un péché, il y a quelqu'un qui a pris quelque chose, lui il fait... Il fait comme si... Pourquoi? Parce que personne n'a vu. Vous savez, quand c'est bien caché, c'est difficile de confesser. Et c'est lorsque Dieu a une famille, et puis une famille, et puis les familles, jusqu'à lui, il dit, « Akan, qu'est-ce que tu as fait ?»« Ah, ben oui, bon, j'ai pris quelque chose. » Mais tu ne te rends pas compte que tu as fait... Il y a 36 hommes qui sont morts à cause de toi. Et là, tu fais semblant de rien du tout. Le péché caché. Et Dieu est sévère avec le péché caché. Vous savez, le problème des péchés cachés, c'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais ça existe même encore aujourd'hui. Vous savez combien de jeunes se détournent de l'Église à cause des péchés cachés chez les aînés? Ils voient soit ils savent des choses sur leurs parents, ils voient des choses, ils savent sur d'autres membres de l'Église, ils savent des choses, et ils disent, voilà, c'est tombé. Dès que j'ai 18 ans, je quitte l'Église, plus rien à voir. Des hypocrites, ils parlent bien à l'Église et moi je sais des choses. Il y a des péchés cachés. Et vous savez, il n'y a rien pour détourner des jeunes du Seigneur comme le péché caché. Et il y a des victimes, les autres, ceux qui ont les péchés cachés, ils restent là, ils sont encore là à l'Église, ils chantent toujours. Hein? Et c'est les autres qui sont dehors et qui disent, moi je mets plus les pieds là-bas. C'est grave. Hein? Tandis que vous savez, il n'y a personne. Hein. On confesse un péché, les gens sont prêts à me pardonner. Ils disent, on m'empêche tous. Hein. Vous allez confesser, ils vont me dire, oui, mais je comprends, mais moi aussi j'ai péché, pas de problème. On accepte le fait. On accepte même que nos parents soient imparfaits. On l'accepte. On dit, mais je t'aime quand même. Mais quand on dit, non, c'est pas moi jamais. Alors là, ils réagissent. Et nous devons. Et l'Église de Jésus-Christ souffre de cela. Et nous devons faire très attention et ne pas essayer de dire, mais personne n'est au courant. Même si personne n'est au courant, ça fait du tort. Parce que éventuellement Dieu fait paraître. Alors, ces frères-là qui se trouvent entre eux dans la cellule en train de discuter, eh bien tout de suite, l'accusation vient de leur cœur. Hein, vous avez vu au verset 1? Il dit, oui, nous avons été coupables avec notre frère. Voilà, on ne s'est pas comporté normalement avec notre frère. C'est un frère, et regarde ce qu'on a fait avec lui. Donc déjà, c'est la première chose. Ils sont en train de se condamner eux-mêmes. Ensuite, deuxième chose, il a dit, nous avons été insensibles à l'angoisse de son âme. On le voyait, ça se voyait sur son visage. Il dit, vous m'envoyez où? Je vais faire comment? Et puis on le descend dans la citerne plat, puis on retire la corde, et puis on le voit là. J'imagine que le visage de Joseph est resté imprimé dans leur mémoire. Et pendant 13 ans, les nuits, quand ils pensent à lui, ils voient ce visage. Et quelle souffrance, rien que parce qu'on ne veut pas confesser. Et puis, il dit la troisième chose qu'on a fait, on est resté sourd à ses cris. Nous ne l'avons point écouté. Quand il nous demandait grâce, il était prêt à tout demander, à pardon, à n'importe quoi, tout ce qu'il avait fait depuis son enfance, il était prêt à demander pardon, à promettre qu'il allait plus refaire. Vous savez comment on fait, hein, quand on est désespéré, on promet même ce qu'on n'a pas. Mais il dit, laissez-moi une chance, laissez-moi, je vous promets, je recommence plus, je dirai pas papa, toutes sortes de choses. Il a dit, on est resté sourd, insensible. Et puis, finalement, on compte les pièces, on le sort de la citerne, on le donne à ses Ismaélites, et il part, et lui, il est en train de crier, « Ruben, Judas !» Et on entend, et puis ça part, et l'écho qui reste, imprimé dans la mémoire. Et eux, pendant 13 ans de souffrance, lui souffre aussi, hein. Lui, victime, il souffre, mais eux, les acteurs, ceux qui ont commis la chose, souffre. Vous savez, la seule manière de régler ça, c'est quand ils vont pouvoir confesser. Vous savez, il y a quelque chose pour ce qui concerne le pardon, et des fois, et c'est pas seulement la question que moi je dois confesser, mais il faut que la personne à qui je confesse soit assez mature pour pardonner aussi. Et nous, en tant que chrétiens, il nous arrive d'être offensés, il y a des choses qui sont dites et tout ça. Alors, je vais prendre rapidement quelques minutes, là, rien que pour voir ces passages, quand même. Parce que c'est l'enseignement de Jésus, donc Matthieu 6. Donc, dès que je dis Matthieu 6, vous pensez à le Notre Père. Hein, et vous savez que dans le Notre Père, il y a une petite phrase qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés ». Il y a des gens qui disent, mais vous ne priez pas le Notre Père dans votre église, c'est pas bien. J'ai dit, vous savez, moi je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est assez difficile de prier. Il dit, comment? Il dit, oui, moi je connais par cœur. Je dis, non, ce n'est pas une question. Vous avez pris le temps de réfléchir sur les mots. Est-ce que vous pouvez dire à Dieu de vous pardonner comme vous avez pardonné? Et s'il vous pardonnait comme vous avez pardonné, est-ce que vous êtes pardonné? Et je dis, moi je préfère, j'aurais besoin d'un pardon un peu plus complet que ça. Parce que moi je l'ai pardonné, mais sous condition tu ne recommences plus. Et si Dieu me pardonnait comme ça, la dette resterait. Hein. Donc, et de toute la prière, le seul commentaire que Jésus fait au verset 14, c'est sur cette partie-là. Pourtant la prière elle est riche. Mais il fait un commentaire sur cette partie-là, qui est la partie la plus faible de l'être humain. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il dit d'abord, Dieu pardonne et vous pardonne. Et donc, puisqu'il vous a pardonné, vous devez pardonner. Et si vous ne pardonnez pas, eh bien, il ne pardonne pas. Continuez au Matthieu 18. C'est encore Matthieu 18. Alors, Jésus raconte une parabole. Et il s'agit de cet homme qui avait une grosse dette et qui se fait pardonner la dette. Mais ensuite, il va trouver quelqu'un qui lui doit beaucoup moins. 100 fois moins, et puis il lui dit, toi, paye-moi. Et le gars, il dit, attends, laisse-moi. Il dit, et puis il le met en prison. Alors le maître, quand il entend ça, il lui dit, il va le voir, il dit, écoute, moi, est-ce que je t'ai pas remis la dette? C'est pas seulement que je t'ai pardonné, je t'ai remis la dette. Tu pouvais pas lui remettre la dette? Regarde, c'est ça qu'il dit au verset 32. Donc, Matthieu 18, verset 32 et 33. Il dit, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et c'est ça l'enseignement de Jésus tiré de cette parabole. Il dit, moi je t'ai pardonné, tu ne peux pas pardonner? Moi je t'ai pardonné grosse dette. Et quand on s'est approché de Dieu, on est venu avec un sac plein de péchés. Et puis nous, on a affaire à quelqu'un qui a juste une poignée, contre moi en tous les cas. Bon, il en a d'autres avec d'autres, mais avec moi, il n'en a que quelques-unes. Et Dieu m'a pardonné combien? Et moi, je réfléchis, il faut que je vois que c'était sérieux. Et si Dieu m'a fait attendre avant de me pardonner, ou est-ce qu'il m'a pardonné? Il m'a dit, je te pardonne. Vous voyez, c'est accorder le pardon, c'est très important. Il y a le problème du péché caché, c'est une chose. On dit que la solution, c'est confesser le péché, mais ensuite, c'est de pouvoir pardonner. Et alors, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il dit, des chrétiens pénibles, vous allez en trouver. Il n'y en a pas ici à Fréjus, mais ailleurs, il y en a, hein, des chrétiens pénibles. Il dit donc, mais si vous trouvez un qui est pénible, supportez-le. Et si vraiment il est pénible, pardonnez-le. C'est pas que vous le soulagez, vous vous soulagez vous-même. Il dit, de même que Christ vous a pardonné, c'est ça la partie que je souligne, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il vous a pardonné gratuitement. Pardonnez gratuitement. Et Jésus a dit, parce que si vous ne pardonnez pas, lui non plus, il ne pardonne pas. Il vous tient responsable. Et après, il y a les conséquences. Hein. Quand on est responsable de quelque chose et ce n'est pas réglé, après, c'est ce qu'on sème, on récolte. Alors, quelque part, les frères sont en train de parler, là, et ils ne se rendent pas compte que Joseph comprend. Pour eux, ça reste caché, mais en fait, la réalité est en train de sortir. Lui, il sait, mais il est en train de les écouter. Et il comprend. Quelque part, alors Joseph, après les avoir entendus, il dit, bon, je vous laisse tous partir, sauf un. J'en garde un, et il garde Siméon. Je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi Siméon? Est-ce qu'il a pris au hasard? Ou est-ce que peut-être Siméon, c'était le gars, le cerveau derrière tout ça? Parce que lui, il sait, hein, c'est un frère. Hein, les frères, ils savent, entre frères, ils savent d'où ça vient. Et Siméon, c'était quand même le gars avec son frère Lévi, qui avait plutôt, ils avaient vengé leur petite sœur, et ils avaient massacré toute une ville, un village. Hein, ils avaient préparé une ruse et puis il avait massacré tout le monde. Donc Siméon, c'était le genre qui pouvait faire ça, c'est le gars qui... Et là, Joseph dit, bon, moi je garde Siméon. Et voilà, je le mets comme ça, je le garde sous le coude là, et vous allez chercher le petit frère. Et en fait, lui, c'est pas Siméon qui l'intéressait, c'est le petit frère qui l'intéressait. Et il voulait être sûr qu'il le ramène. Et donc... quelque part, j'étonné, c'est que les frères, ils réagissent pas. Ils disent, ah non, Siméon, non, pas lui. Certainement que Joseph, il avait bien choisi. Tout le monde avait dit, oh, ouais. Bon, dans leur discussion ensemble, ils disent, c'est quand même toi, hein, c'est toi qui nous a mis dans ce pétrin. Après, nous, on est obligé de se taire parce qu'on a promis de se taire et on souffre et regarde où tu nous as mis. Et peut-être c'était venu à ça, hein, je pourrais imaginer, ça arrive dans les familles. Mais là... regarde Siméon et vous savez le problème c'est que regardez au verset 28 parce que ce qui arrive, je vous lis la suite, je vous raconte un peu la suite du chapitre hein, parce qu'à cause de l'heure, mais Joseph dit bon, je garde Siméon, vous autres vous rentrez, je charge vos animaux et vous rentrez avec la nourriture. Mais il dit à ses, là qui sont en train de servir, là, à faire le plein, il dit, vous savez ce que vous êtes, vous mettez l'argent, leur argent, vous le remettez dans leur sac. Et puis alors eux, ils partent, ils sont chargés, ils pensent que tout va bien maintenant. Bon, il reste Siméon, mais bon, on va se débrouiller avec papa, hein, enfin, si on peut le faire. Ils savent que ça ne va pas être facile, mais pour l'instant, on est tranquille, les choses se passent bien. Et puis le premier soir, ils s'arrêtent, il y en a un qui descend un sac pour prendre un peu de nourriture pour les animaux, et puis il trouve son argent. Il dit, hey, les frères, j'ai trouvé de l'argent, mon argent, il est dans le sac. Ils ont dit, ah bon? Oh. Puis chacun commence à regarder dans ses sacs et chacun trouve son argent. Tout d'un coup, ils disent, oh là là, maintenant ils vont nous accuser d'avoir volé. Et alors, c'est pour ça que vous avez le verset 28. Il nous dit, et il dit à ses frères, mon argent a été rendu et le voici dans mon sac. Alors leurs cœurs furent en défaillance et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Tout de suite. Oui, tout de suite, ils se sentent coupables. Dès qu'il y a le moindre pépin qui arrive, c'est Dieu qui me punit. Au lieu de se réjouir, de dire ouais, il nous a rendu l'argent, ça nous a, on l'a eu que pour gratuit. Non, et eux, tout de suite, c'est. Vous savez, on commence à devenir un peu schizophrène. On commence à croire que tout le monde est contre nous et que tout va contre nous. Vous savez, le péché non confessé chez l'enfant de Dieu peut lui arriver avec, et il peut avoir quand même des comportements de schizophrène. Parce que comment tout de suite il est en train de croire chaque fois qu'il tombe malade, ah, c'est Dieu qui me frappe, chaque fois que, alors que c'est pas vrai, on tombe pas malade chaque fois, c'est pas le péché. Et il commence à voir, ah, j'étais pour un emploi puis je l'ai pas eu, ah, c'est encore Dieu qui est contre moi. Et puis on commence à souffrir de partout. Et on commence à se dire, mais oh, je peux pas m'en sortir. Vous savez, nous deux. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? Mais c'est fait parce que Dieu ne veut pas, c'est pas bon pour notre santé. Quand je parle de santé, c'est l'être entier, corps, âme et esprit. C'est pas bon pour notre santé d'avoir des péchés non confessés. La chose, c'est plutôt d'essayer de couvrir, personne au courant. Et bon, il n'y a que Dieu, mais Dieu pardonne. Et puis bon, je continue, je baisse la tête et je continue. Non, non. Ça nous détruit dans notre vie de prière, dans la lecture de la parole, ça nous détruit partout. Et on souffre terriblement. La meilleure chose, c'est de venir à Dieu dire, j'ai péché, contre le ciel et contre toi. Je serai content d'être un de tes derniers serviteurs. Juste que je puisse exister. C'est ça le fils prodigue, hein, ce qu'il a prié à son père. Son père a dit, non, tu confesses le péché, tu redeviens mon fils. Pendant que tu cachais ton péché, ce qui était dans ton cœur, et tu vivais selon ce qui était ton cœur, le père et le fils s'étaient séparés. Mais maintenant que tu confesses, le père et le fils se retrouvent. Ils s'embrassent, ils passent la soirée ensemble, dans la lumière. Alors que le grand frère, qui lui ne veut pas, qui a son problème, lui, il est dehors, dans les ténèbres. Et donc, c'est là le message que Dieu a pour nous. Et plus tard, hein, si, à la fin de la Genèse, parce que, bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire quand même, mais vous la connaissez peut-être. Bon, éventuellement, Jacob arrive, il est là, mais il arrive le jour où il meurt. Après, les frères, ils commencent à se dire, ah, Joseph, il n'a pas osé nous faire quelque chose parce que papa était là. Parce qu'il ne voulait pas blesser papa. Mais maintenant que papa est mort, et il va régler les comptes. Et c'est là où ils arrivent à 50. Et verset 15, il dit, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre, et puis il leur a inventé une histoire. Vous savez, ils ont eu du mal à croire au pardon. Et pourquoi? Parce que on croit que les autres pardonnent comme nous pardonnons. Si moi, quand je pardonne pas vraiment de tout cœur, je vais douter du pardon des autres. La question, c'est, vous savez, les voleurs, ils soupçonnent tout le monde d'être voleurs. Parce qu'on ne peut voir le reste du monde qu'à travers ses propres yeux. Celui qui est honnête, ben, il dit, moi, je considère les gens honnêtes jusqu'à la preuve du contraire. Et celui qui a du mal à pardonner, eh ben, il est sûr que les autres ne pardonnent pas non plus. Et eux, eh ben, Joseph avait vraiment pardonné de tout cœur, mais eux, ils ont du mal à croire encore. Et vous savez, Joseph, si Joseph a pu pardonner à ses frères ce qu'ils lui ont fait, combien, à plus forte raison, Dieu pardonnera-t-il celui qu'il demande, hein? Dieu peut nous pardonner, et quand il pardonne réellement. Et son pardon, quand lui pardonne, il ne soulève plus la question. Il dit, je ne m'en souviens plus. Alors que nous souvenons de nos péchés passés, lui, il ne s'en souvient plus, il n'en parle plus. Et on pourra arriver dans sa présence, et c'est comme si on n'avait jamais péché de notre vie. Pourquoi ? Parce qu'on vient couvert par le sang de Christ. Prions.